Bonsoir et bienvenue à tous dans cette tribune de la presse. Au sommaire de ce nouveau numéro, arrestation, libération et expulsion des quatre sujets sénégalais et burkinabés, responsables des mouvements Yonamar et Ballet du Citoyen. Et puis, le gouvernement de cohésion nationale dirigé par Matata Ponyo a totalisé 100 jours le mardi de cette semaine. Si la majorité présidentielle juge positif le bilan de ce gouvernement à travers le cahier de charges lui confié par le chef de l'État comme la poursuite de la dynamique d'organisation des élections, l'opposition politique estime que ce bilan est négatif, surtout sur le plan sécuritaire et économique. Nous allons analyser et débattre avec nos confrères qui sont Baudouin Saïlé, éditeur, directeur du journal La Tchoup, un journal qui paraît à Kinshasa. Baudouin, bonsoir.
Bonsoir, confrères, bonsoir à tous.
Innocent Kabouka, la coordonnateur et journaliste à Global Télévision, une télévision privée qui émet ici à Kinshasa. Innocent, bonsoir.
Bonsoir à tous les
Et Gaston Mouchid, directeur général de la radio-télévision Manika, une télévision de Kolwezi. Gaston, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Et pour commencer cette émission, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de la semaine avec vous, Alain Irung, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'affaire des trois Sénégalais et les Burkinabés arrêtés dimanche à Kinshasa pour tentative de déstabilisation de la RDC. La référence plus titre, les activistes sénégalais et burkinabés libérés. Dans sa conférence tenue mercredi, dans son cabinet de travail, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a annoncé la relaxation de quatre présumés terroristes, dont trois Sénégalais et un Burkinabé et un diplomate américain, note le quotidien. Le palmarès, quant à lui, note tentative de déstabilisation de la RDC. Joseph Kabila décide de l'expulsion des activistes étrangers. Et le journal de poursuivre que les quatre activistes sénégalais et burkinabés arrêtés dimanche à Kinshasa ont été libérés et déclarés personnes non grata en RDC. Forum des As signale à sa une manif polémique de Massina des révélations. Le complot pour atteinte à la sûreté de l'État congolais établi, les quatre activistes sénégalais et burkinabés bénéficient de l'arrêt des poursuites. Un Congolais épinglé dans cette affaire. Kinshasa expulse les activistes de Yanamar et Ballet Citoyen renchérit le phare. En rapport avec les 100 jours du gouvernement Matata II, la référence plus s'appesantit sur les premiers pas de Willy Makiachi à l'emploi. Ce dernier AU a représenté également le chef de l'État à la cérémonie d'investiture du président mozambicain. Le confrère cite également d'autres actions du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi. Le palmarès relaye la question des nombreux chevaliers de la plume et du micro en posant la question « Matata Ponyo a-t-il sa presse ?» À plus ou moins quatre reprises, le premier ministre a eu à réunir des chevaliers de la plume et du micro pour, entre autres, procéder à l'évaluation de son action à la tête du gouvernement. Mais le plus révoltant est que cela se fait de façon si sélective, fustige le confrère. RadioCapi.net reprend en vis-à-vis les points de vue de Franklin Tchamala de la majorité présidentielle et Valentin Moubaké de l'UDPS. Pour le premier, des avancées significatives ont été enregistrées, même s'il y a encore beaucoup à faire. Pour le second, l'insécurité bat son plein et le social ne suit toujours pas la maîtrise du cadre macroéconomique tant vanté par Augustin Matata Ponyo. Autre sujet, c'est la session parlementaire de mars qui s'est ouverte lundi 16 mars 2015. L'Observateur enseigne que le président de l'Assemblée nationale n'exclut pas l'idée d'un consensus au sujet du calendrier électoral, allant jusqu'à évoquer l'idée d'un dialogue politique auquel prendrait part l'ensemble de la classe politique qu'il appelle à prendre la mesure de la gravité de la situation pour faire éloigner le sceptre des scènes que le pays a connues en janvier dernier.
Merci Alain Irung. Et parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité de la semaine, il y a la publication lundi du nouveau rapport sur la MONUSCO par le secrétaire général de l'ONU. Dans ce document de 17 pages, Ban Ki-moon se dit préoccupé par des nombreuses violations des droits de l'homme qui continuent d'être commises en RDC tant par les groupes armés que par des éléments des forces loyales. Le secrétaire général de l'ONU revient notamment sur l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire, sur les progrès des engagements contenus dans l'accord cadre, mais aussi sur la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Ban Ki-moon s'est dit d'une part inquiet de la situation générale du pays et se félicite d'autre part des efforts consentis par la MONUSCO dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat. Alors je me tourne vers mes invités. Baudouin Saïlé, un mot sur ce rapport.
Merci beaucoup, cher confrère. Le secrétaire général des Nations Unies, c'est un patron qui sait ce qui se passe chez nous. Mais nous voulons que la communauté internationale fasse un peu d'efforts pour que nous quittions ce stade de inquiétudes permanentes à l'est du pays. Hein, la RDC, c'est un pays
hospitalier. C'est surtout la dimension sécuritaire qui inquiète davantage.
Mais lorsque on dit que la MONUSCO est chez nous, c'est pour quoi faire ? C'est pour nous accompagner, pour que nous arrivions à mettre hors d'état de nuire les ennemis du peuple. Vous comprenez ? L'Est est depuis aujourd'hui 10 ans théâtre de viol, etc. Parce que quoi ? Là-bas, il y a de l'or. Là-bas, il y a du coltan. Là-bas, il y a du diamant. Mais tout le monde voudrait tricher, passer à gauche au lieu de passer par la voie obligée. Si vous voulez exploiter l'or, le diamant, passer par la porte voulue, n'est-ce pas ? Alors, lorsque vous venez par la tricherie, ça ne va pas à ce moment-là, et l'État ne voudra pas ça. Que la MONUSCO nous accompagne jusqu'au bout sans hésitation.
Merci. Alors, Innocent Kaboukala, le secrétaire général de l'ONU, se félicite aussi des efforts consentis par la MONUSCO dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat. Qu'en pensez-vous ?
Bon, la MONUSCO a un mandat bien clair, bien déterminé. On sait qu'il y a eu beaucoup de zones d'ombre entre la MONUSCO et le gouvernement sur cette question de mandat. Mais globalement, on peut dire que la MONUSCO n'a vraiment pas atteint les attentes de la population. Si il faut circonscrire les faits, notamment la question de la sécurité des populations civiles. Parce que chaque fois qu'il y a ces situations de guerre, que ce soit à l'Est, comme ici d'ailleurs dans la ville province de Kinshasa, on pourrait bien voir que la MONUSCO intervienne de temps en temps pour sécuriser la population, mais c'est ce qu'on n'a pas remarqué et on a beaucoup reproché cela à la MONUSCO. Mais qu'à cela ne tienne, il y a plutôt un souhait, c'est que de voir la MONUSCO peut-être rester ici pour un peu de temps, mais surtout améliorer son rendement de sorte qu'elle se fasse plutôt apprécié par la population et même au besoin accroître sa mission, notamment dans la partie est où on ne cesse de décrier la situation d'insécurité
comme l'a dit d'ailleurs,
comme l'a dit effectivement mon estimé confrère.
Alors Gaston Mouchid, quelle est l'actualité qui a dominé d'abord chez vous tout au long de la semaine?
Avant peut-être de parler de l'actualité, je vais revenir sur le rapport qui a été publié.
Évidemment.
Des efforts.
C'est d'ailleurs la question que j'allais te poser en second.
Je suis de l'avis que la population congolaise, éventuellement celle de l'Est, a bien besoin que cette guerre finisse, qu'il y ait des tueries, des massacres, des assassinats. C'était ça le mandat de la MONUSCO. Il a été revu pour que la MONUSCO attaque et aide la FRDC à pouvoir mettre hors d'état de nuire toutes ces factions rebelles. Mais aujourd'hui, après avoir bouté à côté de la FRDC les M23, rien n'a été fait. Si aujourd'hui le mandat va être reconduit, ça signifie que, au cours d'une année, au cours d'un exercice, on va peut-être chasser encore le FDLR et l'autre mandat à Defnalu. Moi, je me dis qu'il y a quand même des efforts à faire de ce côté-là. La population de Beni, par exemple, ne voit pas comment est-ce qu'elle est sécurisée par la MONUSCO et les gens de l'Est, qui est la mission la plus coûteuse que le monde connaît aujourd'hui. Mais est-ce que sur terrain, les Congolais peuvent se dire être satisfaits de cette mission qui consiste à sécuriser la population civile par rapport aux groupes armés ? Je dis que non.
Et donc, vous pensez que le rapport du secrétaire général n'est pas totalement objectif ?
Bon, évidemment, il n'y a personne qui peut mettre des œufs dans sa casserole. C'est une façon de dire que la MONUSCO joue son rôle, mais il faut, à mon avis, qu'elle joue un peu plus que ce que nous voyons actuellement, parce que vous connaissez combien de gens sont tués tous les jours à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est quoi la mission entre nous, soit dit en passant? Donc si cette mission n'est pas, la population n'est pas sécurisée, c'est qu'il y a des questions que le secrétariat général doit se poser autour de la mission.
Alors on en revient finalement à l'actualité qui domine chez vous tout au long de cette semaine qui s'achève.
Disons que à Kolwezi, comme dans d'autres provinces, l'actualité est dominée par les futurs découpages qui vont avoir lieu. Et donc il y a des spéculations de noms de futurs gouverneurs, du président des assemblées qui s'est dit. Et donc les gens sont suffisamment mobilisés pour essayer de voir comment ça va se passer.
Merci beaucoup. Et l'autre actualité de la semaine, c'est justement cette session parlementaire du mois de mars qui s'est ouverte lundi. Une session fortement axée sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre du calendrier électoral et aussi la mise en œuvre de la loi sur la territoriale, telle que vient de le dire Gaston Mouchid. Innocent Kaboukala, quelles sont selon vous les priorités sur lesquelles doivent s'apesantir les parlementaires?
Mais je pense que d'abord, ils doivent revenir sur la question électorale, parce que nous sommes déjà pratiquement à une année, si je ne me trompe pas, à une année de la tenue des prochaines élections. Mm-hmm. Je crois qu'au niveau de ces deux chambres, cette question doit être prise au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça, et on a besoin vraiment que les parlementaires puissent s'y apesantir. Au-delà de cela, il faudrait qu'ils reviennent sur la question du découpage. Cette question fait couler beaucoup d'encre de salive. Vous savez, c'est vrai que tout le monde est d'accord que c'est une matière constitutionnelle. Bon, là, ça a été prévu et ça devait venir un jour. Mais en même temps, la question a été évoquée déjà en 2006. Regardez, aujourd'hui, nous sommes presque, ça fait pratiquement 10 ans que cette question avait été évoquée. Mais rien n'avait été fait. Quelque part, on a souffert un peu d'amnésie, on a oublié cette question. Et quand on revient, il fallait avoir quand même des tacts de méthode, si pas une bonne sensibilisation à ces sujets, pour voir si réellement les gens en font leur priorité. Parce qu'il y a ces provinces qui n'acceptent pas, qui n'accordent pas une chance à au découpage, qui continuent à penser qu'il devrait rester tel quel. Mais il y en a d'autres aussi, effectivement, qui sont contents, mais les bases, les critériums qui ont milité pour qu'on en arrive à ce découpage, il faut peut-être qu'on essaie de revoir. C'est pour cela que je suis d'avis, comme tous ceux qui pensent, qu'il faudrait peut-être mettre un petit frein sur cette découpage. Question, de manière à nous permettre d'aller d'abord à ce qui est prioritaire, c'est-à-dire la question des élections, et puis revenir plus tard sur cette question en posant, cette fois-ci, en se référant à la population, donc par le biais du référendum. Voilà, je crois que c'est cette manière-là qu'on peut s'en sortir.
Et je vois déjà que Baudouin Saïlé n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Je vais lui donner la parole pour quelques minutes avant qu'on passe au premier thème.
Chers confrères, nous sommes le faiseur d'opinion et nous sommes des journalistes attitrés professionnels. J'apprécie tout le monde, mon frère ici, vous-même et même mon ami Alain
Gaston.
Je dis ceci, la loi sur la programmation de découpage territorial est déjà signée par l'autorité suprême du pays. Il n'y a plus à reculer. Vous comprenez? Cette démarche, comme a dit mon confrère, ça a débuté depuis 2006. La Constitution avait dit depuis 2006 que dans 3 ans, il devait y avoir la naissance de 26 provinces au sein... Ici, je n'ai pas envie de vous. Donc, de 2006 à aujourd'hui, 10 ans demain, n'est-ce pas? Alors, c'est très important, chers confrères. Le chef d'État vient de signer l'ordonnance portant programmation de découpage des provinces. Vous comprenez? 10 ans après, le temps est passé, mais aujourd'hui, les gouverneurs des provinces qui sont concernés par le découpage sont réputés démissionnaires. Une parenthèse, le gouverneur Moïse de Katanga. Non, c'est très important, laissez-moi même pas le temps, donnez-moi une minute. Le gouverneur Moïse de Katanga a déjà déposé, il est consciencieux, c'est un patriote. Il a déposé, il dit que moi je suis gouverneur parce que le Katanga aujourd'hui a été
démembré en 4.
À 4 ou à 5, je ne sais pas, 4 ou à 5, vous comprenez? Alors, aujourd'hui, tous ces gouverneurs qui sont considérés par les découpages sont réputés démissionnaires. Parce que d'ici à 3 mois, il doit y avoir de nouveaux gouverneurs des provinces et des responsables provinciaux de l'Assemblée pour continuer de l'avancer. C'est très important.
Oui, je comprends. Alors, on aura le temps d'en reparler. On aura le temps d'en reparler, en tout cas, même dans la prochaine émission. Mais je vais donner quand même la parole à Gaston Mouchid parce qu'il faut qu'on aille rapidement pour entrer dans le premier thème. Gaston, à ce niveau de débat, qu'est-ce que vous pensez finalement de toutes des priorités de l'Assemblée au niveau des parlementaires?
Nous avons entendu le président de l'Assemblée parler des priorités. On se dit, c'est bien intéressant que les lois soient votées. L'arsenal judiciaire, plutôt législatif, est important dans ce niveau du départ de notre République. Mais je me dis aussi que, comme l'a dit le confrère qui venait de précéder, depuis 2006, on a programmé les découpages. C'est qu'il y a une bonne chose aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour préparer les découpages? Vous avez parlé du Katanga. Aujourd'hui, le Katanga va être divisé par quatre. On va avoir quatre provinces. Nous, et Kolwezi, qui est une ville urbano-rurale, vont faire se débrouiller fort bien. Mais à Kamina, il se pose un problème. Quelle est l'infrastructure dans laquelle va siéger le ministère, les députés,
le gouvernement provincial, les assemblées, et tout ça.
Que ce soit à Kalemi ou ailleurs. Et je crois que nous savions que ça allait arriver. Mais il ne suffira pas, parce que sinon, le découpage risque d'être donné plus d'une personne. Si le moyen ne suffit pas, le découpage sera un découpage de noms. Encore faudra-t-il que les gouvernements centrales, qui est très gourmand, puissent donner à la base les 40% pour permettre à ce que les nouvelles provinces aient leurs moyens politiques. Sinon, ça risque d'être un cheval ou un éléphant blanc.
D'accord. Merci beaucoup. Je sens que les amis s'ils veulent vraiment dire un mot, mais souffrez que ça soit qu'on en finisse là, parce qu'on y reviendra en tout cas. C'est une question importante. On y reviendra de temps en temps. Mais pour clore cette petite introduction, sachez que le paysage médiatique congolais est en deuil. Benoît Mbambi Wambambi, ancien correspondant du Digital Congo Nord, qui voit tirer sa révérence. Radio Capi et toutes les maisons de presse présentent ses condoléances à la grande famille du Digital Congo pour cette perte. Et c'est ce qui nous amène à notre premier thème de ce soir, qui concerne les mouvements citoyens sénégalais et burkinabés. Justement, les quatre sujets sénégalais burkinabés arrêtés dimanche 15 mars à Kinshasa ont été libérés et expulsés de la République démocratique du Congo. C'est le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, qui a annoncé leur libération au cours d'une conférence de presse tenue mercredi dans la capitale. Selon Lambert Mende, le chef de l'État a décidé d'ordonner l'arrêt des poursuites engagées contre ces étrangers et de les expulser de la RDC. Et les détails avec vous, Jeff Ngoy.
Baro Mohamed, San Aliou, Tala Almami, activiste sénégalais du mouvement Yanamar, et Ouédraogo Sibri, leader du mouvement Balai Citoyen, sont déclarés indésirables sur le territoire congolais. D'après Lambert Mende, ils sont venus apprendre aux Congolais à poser des actes subversifs contre le pouvoir.
L'objectif avoué des maîtres d'œuvre sénégalais et burkinabés et leurs exécutants congolais était de perturber le processus démocratique et électoral dans notre pays. Un processus qu'ils considèrent de leur point de vue comme trop lent, on ne sait pas au nom de quel principe, et peu susceptible d'aboutir aux résultats partisans escomptés par les sponsors.
Quel rôle jouent les services de sécurité qui arrêtent en lieu et place du parquet? Mende explique.
L'ANR a deux grandes responsabilités, la recherche des informations, mais en même temps, officier de police judiciaire à compétence générale. Il peut constater des infractions et mettre les auteurs à la disposition du parquet. Donc ce sont des services qui en réalité se juxtaposent et il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a une différence entre l'un et l'autre.
Une main noire qui ne se cache plus s'active depuis le début de cette année à déstabiliser les institutions de la RDC, déplore le ministre. Il précise que les enquêtes préjuridictionnelles se poursuivent pour les Congolais arrêtés.
Je rappelle que dans ce studio, j'ai Baudouin Saïlé, éditeur du journal La Chopo, Innocent Kaboukala, directeur, coordonnateur de Global Télévision, et Gaston Mouchid, directeur général de Manika Télévision. Alors, Baudouin Saïlé, vous avez suivi le reportage de Jeff Ngoï. Quelle analyse vous faites de cette situation des Burkinabés et Sénégalais avec leur mouvement?
Le chef de l'État avait déclaré dernièrement ici chez nous que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Vous comprenez? Depuis beaucoup de temps, les gens ne nous cherchent que noises. Il faut tuer pour venir faire quoi? Il y en a marre, ce n'est pas congolais. Balai, ce n'est pas congolais, c'est autre chose. Et à ce moment-là, franchement, je demande aux autorités provinciales, les chefs de quartier, les bourgmestres doivent travailler pour essayer de dénicher des malfrats qui s'infiltrent dans la cité. Et ils ne peuvent pas continuer à regarder l'argent des Wenzé, des petits marchés. Ils doivent ouvrir l'œil pour être en contact vraiment avec la population, voir qui est venu dans le quartier, pourquoi faire. Ce n'est pas le rôle du président de la République. Le président ne peut pas tout faire, vous comprenez? Les gouvernements de la République, vous avez dit qu'il est bien fait 100 jours, c'est entre autres, la mission de veiller à la sécurité des biens des personnes. Comment les gens peuvent quitter leur pays pour venir chercher des trous chez nous? Non. 3 jours, ça suffit. Trois jours depuis le mois de janvier, il y a eu des casses, il y a eu des pillages. Non, nous voulons que chaque Congolais qui se dit vraiment Congolais prenne cette disposition à cœur pour essayer de décourager les mauvaises consciences qu'ils veulent toujours venir au pays, chez nous, au pays, tuer à gauche, tuer à droite pour parvenir au pouvoir. Mais
on sait qu'il y a des Congolais arrêtés avec les Sénégalais. Le ministre de la Communication avait affirmé qu'il devrait répondre devant la justice pour atteinte à la sûreté nationale.
Mais pourquoi le Congolais doit s'associer avec un étranger pour déstabiliser son pays? Well, quand les balles sifflent, il n'y a pas de balles destinées aux opposants et les balles destinées à la mouvance présidentielle. Les balles sont aveugles, elles viennent, elles attrapent tout le monde. Non, moi je suis de Kisangani, j'ai connu la rébellion en 64, j'ai vu des gens mourir, j'ai des souvenirs qui datent de longtemps.
Je refuse
de croire qu'un Congolais qui se dit vraiment Congolais doit s'associer avec un étranger pour détruire son pays, le Congo. C'est dommage.
Alors, Innocent Kabukala, vous avez à réagir par rapport à ce que dit Baudouin?
Je suis... je veux dire, je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle de la vigilance au niveau des quartiers, les chefs de quartier et tous ceux qui ont la charge dans les différents endroits où nous habitons pour dénoncer le mal. Mm-hmm. Je suis tout à fait d'accord. Mais je ne sais pas quel rapport fait-il entre ça et au niveau de quartier. Mais je voudrais m'intéresser aux faits. Mm-hmm. Et le fait, c'est que moi, je constate, je note que au niveau africain, de façon générale, et même en République démocratique du Congo, il y a cette soif de la démocratie, avec toutes ses implications. C'est tout ce que je note. C'est que il est possible, à partir du moment que nous avons accepté les méthodes démocratiques, il est possible que des gens utilisent la démocratie alors dans son sens propre. Parmi les implications de la démocratie, nous avons la possibilité de nous exprimer. Vous comprenez? Mais on ne peut pas dire que quand on s'exprime, on doit aller à l'encontre, on doit aller au-delà de ses limites, aller jusqu'à créer des troubles. Est-ce qu'il suffit seulement, parce que quand vous suivez l'interview qui a été accordée aux camarades de ces deux mouvements, invités du reste en République démocratique du Congo, parce qu'ils ne sont pas venus par hasard. Ils ont été invités par des gens qui croient...
Mouvement Filimbi.
Voilà. Ouais. Des gens qui croient dans ce combat-là, s'il faut m'exprimer ainsi. Mm-hmm. Donc, ils ont été invités. Ils sont venus pour échanger leur expérience. Mais de là, on ne peut pas conclure tout de suite qu'ils sont venus pour troubler l'inquiétude des gens. Je pensais que lorsque mm-hmm. le confrère disait que le chef de l'État avait dit que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple, c'était pour dire qu'il ne faut pas imaginer. C'est comme ça que moi j'avais perçu le message du chef de l'État. Oui. Pour le chef de l'État, à mon sens, c'était que le peuple congolais, bien sûr que à côté, dans des pays africains, il y a des mouvements, des gens qui s'adonnent à des troubles, qui veulent déstabiliser leurs institutions, mais ce n'est pas le cas pour le peuple congolais. Le peuple congolais a sa manière à elle de revendiquer. Mmh. Et sa manière à elle, ce n'est pas la violence. En tout cas, il n'y a aucun désordre que le peuple congolais, lui, pourrait s'accrocher pour pouvoir amener la déstabilisation de ce pays. C'est plutôt un peuple qui a sa manière, qui a ses méthodes propres et qui n'est pas à comparer avec les autres. Parce que la question ici, c'était quoi, les Burkina Faso? Et on a vu que ce mouvement de violence, et pour le chef de l'État, il était ferme, il croyait que le peuple congolais ne peut pas s'adonner à ça. Et ça s'est vérifié. On n'a jamais vu en aucun moment de peuple congolais en train de créer des désordres du genre qu'on a vu au Burkina Faso pour renverser des régimes et arriver jusqu'au pouvoir. Moi, je ne crois pas, je n'en ai jamais vu personnellement, à part le mouvement rebelle que nous avons constaté dans ce pays à une certaine époque. Okay. Mais, en tout cas, pour des civils qui viennent pour prendre le pouvoir par la force, ça n'a jamais arrivé. Et c'est comme ça que j'avais perçu, moi, le message du chef de l'État lorsqu'il parlait du peuple congolais qui était à différencier avec les autres peuples du continent africain. Mais ici, je note qu'il y a plutôt un besoin de la démocratie, l'expression, et de là à aller jusqu'à conclure de cette manière-là, et même penser que le fait que l'ambassade des États-Unis ait financé la tenue de cette manifestation signifierait qu'on est en train d'alimenter une rébellion. Mais non, je ne crois pas. Moi, j'ai du respect pour le peuple congolais, pour les autorités congolaises. J'appuie la vigilance, mais il ne faut pas trop verser dans la facilité en accusant des gens de cette manière. Si cette affaire a pris de l'allure aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu arrestation. Mais sans arrestation, ça passerait. Je ne verrais personne adopter ces méthodes-là.
Alors Gaston, beaucoup d'interrogations se posent sur ce dossier parce que ces Sénégalais et Burkinabés entrent officiellement sur le territoire congolais. Ils font leurs activités au vu aussi de tout le monde pendant presque un mois et au dernier jour de leurs activités, ils sont arrêtés. Comment, chez vous au Katanga, vous avez pu expliquer cela?
Bon, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup d'interrogations qui demeurent sans réponse. D'abord, les activistes sénégalais burkinabés qui sont arrivés en RDC devraient avoir obtenu un visa de la République démocratique du Congo. Et je sais que pour avoir un visa, il faut avoir motivé la raison de ta présence sur le territoire. Et quand ils sont arrivés, ils ont passé par pratiquement un mois à travailler. Il y a eu des séminaires, y compris avec des Congolais, mais aussi des diplomates. Je me dis, je suis à 2000 km de Kinshasa, mais est-ce que c'est possible que l'ambassade des États-Unis vienne soutenir un mouvement de déstabilisation du régime? Je pense que c'est aussi un gouvernement responsable qui ne pourrait pas verser dans une telle faiblesse. Et même s'il y avait, comme l'a dit les responsables, le porte-parole du gouvernement, qu'ils vont être présentés devant la justice, surtout les Congolais, pour atteinte à la sûreté nationale. Si atteinte il y a eu, je crois qu'on ne devait pas attendre un mois pour que le jour de la clôture, on puisse démontrer qu'il y a eu atteinte à la sûreté nationale. Et les quatre activistes sénégalais burkinabés ne devaient pas être expulsés du territoire congolais, parce que s'il est démontré que ils ont créé un mouvement pour atteindre la sûreté nationale, je crois que c'est assez grave pour que tous comparaissent devant les juridictions compétentes et qu'on nous démontre de quoi ils étaient accusés. Mais aujourd'hui, je me dis que, un peu comme la justice, on dit dans un langage qui dit que la justice est comme la toile d'une araignée qui laisse passer les lézards et arrête les moustiques. Les Congolais qui sont arrêtés aujourd'hui vont faire la prison, c'est sûr. La prison est pleine de gens qui sont accusés comme ça. Mais est-ce que le jugement va être impartial? Voici le problème. C'est là-dedans qu'il va y avoir des problèmes. Est-ce qu'ils vont avoir des avocats qui vont les défendre? Peut-être que d'autres vont avoir peur parce que ils vont avoir affaire au gouvernement.
Gaston, je dois donner une précision.
Oui, Gaston. Travailler dans des situations où on peut arrêter des situations qui risquent d'encrager la République. Oui. Mais il faut vraiment que ça se fasse dans l'ordre et dans l'impartialité.
Oui, Gaston, je dois donner une précision. La plupart de tous les Congolais qui étaient arrêtés dans ce mouvement ont été pratiquement libéré jeudi, d'après les informations de certaines ONG qu'on a pu contacter. Alors, une question que je vous pose, est-ce qu'il était vraiment opportun de procéder à ces arrestations en cascade sans tenir compte des qualités respectives de toutes ces personnes?
C'est trop facile, hein, c'est trop facile. S'ils ont été arrêtés, est-ce que vous pensez qu'une atteinte à la sûreté nationale, c'est un petit délit qu'il mérite que quelqu'un vienne faire tour au cachot et soit libéré? Voilà, il faut parfois ne pas être, ne pas se précipiter à donner de point de vue à la télévision, à la radio, et au final, à se rendre compte que les dossiers sont vides. Parce que s'ils ont été libérés, c'est que les dossiers, ils sont vides. Et donc, les porte-parole du gouvernement n'avaient pas à hausser le ton en disant qu'ils viennent déstabiliser la République, qu'ils sont en train de monter contre les pouvoirs des gens. Je crois qu'il faut faire un peu de retenue avant de donner des versions officielles qui engagent en faveur de la République.
Merci beaucoup. Alors, on va finir par ce dernier tour de table. Baudouin Saïli, certains analystes notent qu'à travers ces arrestations, c'est l'image même de la liberté d'expression et d'association de la RDC qui est mise à mal. Qu'en pensez-vous? Rapidement,
soyons tout simplement vigilants, okay, pour que demain, qu'il n'y ait pas d'autres aventuriers qui viennent tenter et échouer par après. Hein. Soyons vigilants sur notre pays, nous n'avons pas de guerre ici, ça en est trop, des guerres depuis des années sur la guerre. Nous voulons seulement le développement de la République à travers le découpage qui pointe à l'horizon, que tout le monde se mette autour d'une table pour voir par où commencer, par où évoluer, afin que chacun ait une fusque le petit thé le matin.
Innocent Kaboukala, dans le lot des arrestations, il y a eu un diplomate américain qui a été arrêté puis relâché. Et dans certains salons politiques, on affirme que cela s'apparente à un incident diplomatique. Est-ce que vous partagez cet avis?
Quand on arrête quelqu'un et puis par la suite on le relâche, Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas lieu qu'il soit arrêté. Mais alors ici, il faut quand même de la méthode. Hein, quand on vient arrêter, c'est vrai, généralement, quand on arrive à un endroit où il y a un attroupement, bon, on prend tout le monde, mais quand on va verbaliser, il suffit seulement de passer peut-être quelques heures pour libérer les gens. Donc, ce n'est toujours pas conseillé hein, de prendre tout le monde comme ça et de les jeter sans tenir compte de leur qualité. Et tout ça, ça ternit l'image de notre pays. On a besoin de l'améliorer davantage et surtout, nous sommes la République démocratique du Congo. Les valeurs démocratiques doivent être mises en exergue.
Merci beaucoup. Alors tout de suite, nous passons à notre deuxième thème de ce soir qui est le bilan des 100 jours du gouvernement de cohésion nationale. Ce gouvernement de cohésion dirigé par Augustin Matata Ponyo a totalisé mardi 100 jours de travail. Et à cette occasion, Radio Okapi a donné la parole à la majorité au pouvoir et à l'opposition pour analyser ce bilan. À la majorité présidentielle, le bilan est jugé positif parce que ce gouvernement se trouve dans la droite ligne du cahier des charges lui confié par le chef de l'État comme la poursuite de la dynamique d'organisation des élections. Et c'est ce que le communicateur de la majorité présidentielle nous dit, Franklin Tshamala.
D'abord, s'agissant de la reconstruction nationale, est-ce que la dynamique se poursuit? Tout le monde doit constater que la dynamique, elle se poursuit. Donc la dynamique de reconstruction des infrastructures de notre pays, elle se poursuit. La dynamique de la mise en œuvre de la nouvelle citoyenneté, la citoyenneté responsable, elle se poursuit. Maintenant, s'agissant de l'organisation des élections, est-ce que ce gouvernement a fait des choses qui vont dans le sens de tenir la promesse quant à l'organisation des prochaines échéances électorales, conformément à la condition de notre pays? Je pense que ceci n'est plus à redire. Le calendrier global est là. Ce calendrier impute au gouvernement quelques responsabilités dont ce gouvernement s'acquitte déjà. Et que dans une dynamique participative, tous les peuples congolais emboîtent les pas au gouvernement pour que nous allions vers les échéances telles que voulues par notre constitution. Il n'y a rien à redire.
Et du côté de l'opposition, on n'est pas du tout du même avis. Valentin Moubaki estime que ce gouvernement, comme tous ceux qui l'ont précédé d'ailleurs, ont échoué sur le plan sécuritaire et économique. Écoutons les conseillers politiques d'Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS.
Sur le plan sécuritaire, l'insécurité bat son plein à travers tout le pays. Ce gouvernement, comme ceux qui l'ont succédé, est incapable aujourd'hui de neutraliser les FDLR, les infiltrés du M23, les ADF, les Mororo, dont l'insécurité est générale dans ce pays, bien qu'on n'en parle pas. Sur le plan économique, il n'est pas normal qu'un gouvernement qui fait pendant une dizaine d'années des taux de croissance économique soutenus au-delà de 5%, cette année on nous parle de 9,3%, projeté à 10% à la fin de l'année, qui fait une inflation de moins d'1%. Un gouvernement qui présente une telle fiche de bonne santé soit incapable d'augmenter les salaires des gens qui aussi autour de 80 000 francs congolais le mois, est incapable de doter le pays des infrastructures de base nécessaires. Bref, nous sommes dans une économie artificielle qui ne sert pas les intérêts du Congo, mais une économie de pillage et de prédation qui sert les intérêts de l'étranger.
Un dossier signé Agathe Pona Elema. Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes journaliste à Global Télévision. Comment vous analysez les 100 jours du gouvernement de cohésion nationale?
Bon, je ne voudrais pas rentrer dans ce que les deux personnalités politiques viennent de dire. Hein. C'est normal pour l'opposition. On ne verra, jamais rien de grave. Pour le gouvernement, c'est clair que tout est parfait. Mais moi, je voudrais plutôt m'intéresser aux réalisations. Je note que il y a, je crois, un peu plus d'un mois que nous avons été informés que le gouvernement, plutôt la République démocratique du Congo, venait de gagner en ce qui concerne l'indice de développement humain. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut noter, même si réellement la misère est toujours permanente. Donc, on aurait quand même souhaité que, quand on note, on monte quelque part, il faut vraiment qu'au niveau de la réalité hein, de la population, qu'on puisse enregistrer ces genres d'avancées. On nous parle au niveau de l'emploi qu'il y a des avancées significatives, mais est-ce qu'il y a des chiffres qu'on peut mettre à notre disposition pour qu'on sente combien il y avait de chômeurs et aujourd'hui
et combien ont
pu obtenir leur emploi? Mm-hmm. Et à ce moment-là, on peut peut-être juger cela. On nous parle de la question électorale. C'est là que moi j'entends. C'est vrai que 100 jours, ce n'est pas suffisant pour l'ensemble de toutes ces questions, mais moi je dis que après les 100 jours ici, le gouvernement a besoin plutôt de s'attaquer aux vrais problèmes, aux vraies questions. Nous avons parlé des élections et je pense que le gouvernement a intérêt à faire un grand effort pour parvenir à toutes ces promesses. On a vu aussi le vice-premier ministre en charge de l'intérieur qui est passé déposer la liste comme pour dire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour arriver à réaliser toutes les contraintes relevées par la CENI lors de la publication de ce calendrier-là. Alors, nous voulons plutôt que le gouvernement continue sur cette lancée, de sorte que nous ayons effectivement les élections, et à ce moment-là, nous pouvons établir un vrai bilan de ces gouvernements de cohésion nationale, d'autant plus qu'on continue toujours à regretter la régression à ce qui concerne les droits de l'homme. On se souvient il y a peu de cette restriction au niveau de la communication réseaux sociaux, c'était coupé et puis finalement, bon, rétabli. Tout ça sont des points négatifs qu'on relève, mais on a plutôt besoin de voir le pays aller de mieux en mieux.
Merci. Alors, Baudouin Saïlé, il y a plus d'avancées que de défis, ou bien plus de défis que d'avancées dans ces 100 jours?
Mais le gouvernement a travaillé dans un environnement dominé par la guerre, vous comprenez, hein? On est au volant, et à gauche on tire, à droite on tire, et il résiste tant bien que mal, mais le fait de gagner, de mettre hors d'état de nuire le groupe là, des MM, là, ça vaut la peine de féliciter le gouvernement, franchement. Et ce matin, j'étais en contact avec le maire intérimaire de la ville de Kisangani, et que là-bas aussi, il y avait des tueries presque chaque jour, mais depuis qu'il gère la ville, avec le concours des autorités provinciales, la calmie est revenue à Kisangani, on peut circuler comme par les passés, vous comprenez. Le problème de la bancarisation, c'est à féliciter, parce que dernièrement,
il y avait... Mais la bancarisation, ça fait plus de 2 ans, non?
On continue parce que
Matata
1, Matata 2, on voit la tête. Vous comprenez? On continue avec Matata 1.
Vous avez compris que je n'ai pas parlé de Matata 2, j'ai parlé du gouvernement de cohésion nationale.
Mais justement, dirigé par Matata qui est le chef de file.
Oui, ok, oui, je vous contente.
Voilà, c'est ça. Alors, de toute façon, il y a encore beaucoup à faire, mais les signes avant-coureurs.
C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce qu'il y a plus de défis ou plus d'avancées?
Il y a beaucoup de défis. Ça, je le dis qu'il y a beaucoup de défis. La République du Congo, c'est pas parce que nous sommes convoités par tout le monde, hein. C'est un vaste territoire où que le Premier ministre aille partout. Je veux dire au Premier ministre de faire quand même un saut à Kisangani. Depuis les 3 ans, il n'a jamais été à Kisangani. Qu'il vienne grimper à Kisangani, voir ce qui se passe à Kisangani, et apprécier, aller au Katanga, aller je sais pas moi, au Maniema, dans toutes les provinces. Aujourd'hui, le Premier ministre aura à gérer 26 provinces par rapport à hier.
Oui,
vous comprenez? Alors, on félicite, on encourage, mais que toute la presse soit associé à la démarche. Lorsqu'il y a point de presse du Premier ministre, on appelle toute la presse.
Ah, donc vous rangez aussi du côté du journal Le Palmarès.
Mais c'est un constat, je le dis, parce que moi, ça y est, je suis directeur du journal La Chopo, j'ai été félicité par le Premier ministre il y a 3 ou 4 mois, mais cette fois-là, je ne l'ai pas été. Je suis allé voir les services de communication, on dit que voilà, reprenez tous les journaux, reprenez toutes les télévisions, c'est pour la nation et non... Excusez-moi pour quelqu'un d'autre.
Alors, Gaston Mouchid, comment, dans l'arrière-pays, pour ne pas parler du Katanga, on analyse les 100 jours du gouvernement de cohésion nationale?
Bon, je dirais que par humilité, je ne peux pas prétendre représenter l'opinion katangaise.
Oui.
Je donne mon opinion en tant que journaliste.
Bien sûr.
Ce qui est vrai, c'est que Data a réalisé un certain nombre de choses, notamment il a stabilisé l'inflation qui n'a pas franchi la barre de 1%, on a vu les taux de croissance et il y a le taux d'inflation qui a été inférieur à 1, c'est que c'est une bonne chose. Mais donner un bilan ou penser que tout était rose, il y a encore un peu de doute là-dedans. Prenons par exemple l'aspect sécuritaire. Le Premier ministre a dit que ça avance beaucoup, la victoire de la FRDC sur l'M23, EDF, Nalou, ainsi de suite. La professionnalisation continue, la montée en puissance de l'éthique et de la moralité dans
l'armée congolaise,
ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce qu'on donne aux éléments des troupes? Vous voulez professionnaliser, conscientiser un militaire qui touche moins de $100, qui a de la famille. Comment vous voulez qu'il soit conscient, qu'il respecte l'éthique et la déontologie militaire s'il n'est pas motivé? Le solde de militaires et des policiers devrait être revu pour que ceux-ci puissent travailler convenablement. Ceci pourra permettre à ce que le militaire soit plus motivé et aller de l'avant. On nous a parlé ici du taux de chômage qui est parti des 40 à 60%. Où est-ce qu'on a vu le taux de chômage diminuer? Au contraire, on a l'impression que de plus en plus, je vais parler du Katanga. Le Katanga, avec la gétamine qui est employée autour de 30 000 personnes, aujourd'hui, les sociétés qui prennent les participations de la gétamine sont des sociétés privées, qui au total ne font même pas 10 000 employés. Et les restes, c'est des gens qui doivent se débrouiller dans la mine, à l'exploitation minière artisanale et j'en passe. Donc il y a un sérieux problème par rapport au chômage et donc les sociétés qui viennent. Aujourd'hui, vous connaissez que Kolwezi a donné le cuivre et les cobaltes qui alimentent les 5 chantiers de la République. Mais Kolwezi est à court d'emploi. Les jeunes gens qui finissent sont en train de déambuler, de faire le creusage artisanal, le cambisme, parce qu'il n'y a pas l'emploi. On se demande, est-ce que les entreprises privées qui viennent s'installer engagent où? Il y a ces problèmes-là qui se posent.
Okay.
On a parlé ici de 500, autour de 500 écoles construites.
Ça pourrait être votre conclusion.
Matata avait promis 9500 écoles entre 2013 et 2015. Aujourd'hui, si on en est à moins de 500, donc il y a un problème. Et puis, quelles sont ces écoles? Je vais parler d'Écolésie, qui a vu construire des belles écoles comme les collèges à Bienheureux Jean 23, l'ITIMA, comme l'Athénée, comme l'ITEM à Moutouchi, des belles écoles avec étages, mais qu'on vienne construire 6 locaux, un peu comme si on était... Ces écoles ont été construites avant l'indépendance. Mais aujourd'hui, 50 ans plus tard, on va construire des écoles qui ressemblent à des boueries. Et vous estimez que ça, c'est une révolution de la modernité. Le Premier ministre a intérêt à défendre les slogans du chef de l'État qui demande à ce qu'on aille de l'avant, pas qu'on rentre avant l'indépendance. Donc ça, ce sont les écoles prétendument construites. Mais quand on construit ces écoles-là, mais c'est qu'à Kinshasa et dans toutes les provinces de la RDC, ce sont les parents qui payent la scolarité de leurs enfants. Ça s'appelle FIP, FAP, ou ça prend des
différents noms.
Donc les parents sont en train de scolariser leurs enfants, ils payent. Mais dans les discours officiels, souvent, on nous parle de la gratuité de l'enseignement. Quelle gratuité de l'enseignement? Parce que si vous n'avez pas à payer les enseignants, vos enfants ne vont pas aller à l'école.
Merci beaucoup,
Gabriel. Donc il y a là des problèmes qu'il faut, à mon avis, revoir avec la réalité sur terrain.
Voilà, merci beaucoup Gaston, je crois que ce sera par là que vous allez conclure, et un mot de conclusion de la part de Baudouin par rapport à l'état des lieux qu'a fait Gaston à Kolwezi. Vous êtes ici à Kinshasa, un petit mot de conclusion.
Ne m'orientez pas à conclure en fonction de ce que mon ami a dit. Moi, je conclue plutôt en ce qui concerne le découpage territorial.
Okay.
Je dis ceci,
pas de problème.
Vive le découpage territorial de la République. Le chef de l'État a déjà signé la loi portant le découpage territorial. Il ne s'agit pas de certaines personnes qui doivent passer ici et là pour essayer de douter de la signature du chef. Lorsque le chef a signé, vive le débat, vous comprenez? Vive l'avènement de la province de la Tchopo, vive l'avènement de l'Ituri, vive l'avènement du Bas-Uélé, du Haut-Uélé et de toute la République concernant...
Et vous prêchez précisément rien que pour la province orientale.
Non, non, je continue de continuer, je dis que et l'ex-province orientale et toutes les autres provinces concernées par les découpages. Vous comprenez? Nous devons nous réunir, la presse doit faire un bon travail à ce sujet, les politiques également, pour qu'il n'y ait pas débordement, pour qu'il n'y ait pas casse.
Merci beaucoup. Alors, Innocent Kaboukala, à vous de conclure.
Très bien. Je note que la presse doit faire un bon travail, mais c'est le travail de sensibilisation. Et la vraie sensibilisation, c'est de dire aux gens qu'il ne suffit pas de dire simplement que, parce que on est en train de spéculer sous les noms de certains gouverneurs, parce qu'ils veulent, devenir de Roitelet, puisqu'il y aura des provincettes, puisque c'est ça pour leur intérêt, que nécessairement il faut passer au découpage tout de suite. Non, il faut tenir compte de ce temps-là qui est déjà écoulé, sensibiliser dans le sens de l'intérêt. Ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas organisé les élections de gouverneurs qu'il faut nécessairement bouter ceux qui sont là parce qu'il faut aller au découpage. Non, il faut faire des choses avec modération et surtout tenir compte des réels problèmes qui sont liés au découpage.
Merci beaucoup à vous tous. Baudouin Sahilé, éditeur du journal La Tchopo, Innocent Kaboukala, coordonnateur et journaliste à Global Télévision, et Gaston Mouchid, directeur général de la radio-télévision Manica. C'est sur cette note que la tribune prend fin ce soir. Équipe rédactionnelle et coordination Alain Irung, supervision Ben Kabamba, présentation Béré Fonkeloutchaka, et aux commandes techniques, c'était Bob Landou et Héritier Sidiakala. Retrouvez cette émission sur le site, votre site www.radiocapi.net, et surtout, excellente condition d'écoute des programmes de la fréquence de la paix.